talmudique. Vendredi soir prochain, 18 septembre, commencera la nouvelle année du calendrier hébraïque, marquée par la fête du nouvel an, appelée en hébreu Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année. Deux jours de fête qui remémorent chaque année la création du monde et qui sont marqués par une série de gestes liturgiques, dont un rituel de table qui articule parole et nourriture de façon très originale, un rituel sonore incarné par la sonnerie du chauffard ou corne de bélier, dont les sons évoquent différents rythmes de la vie, et une coutume étonnante qui consiste à jeter des miettes de pain aux poissons. Ces gestes liturgiques ont inspiré des générations de penseurs qui ont à la fois transmis le patrimoine qu'ils ont reçu tout en cherchant à le renouveler par de nouvelles significations. « Dor dor vedor shav » dit le Talmud dans le traité Sanhédrin. Chaque génération a la chance de voir émerger de nouveaux commentateurs et de nouveaux commentaires. Tradition du nouveau qui nous invite à nous demander comment dans ce monde qu'aujourd'hui l'on dit d'après, ces rites frappés au sceau du commencement peuvent-ils éclairer ce commencement d'une autre manière d'être au monde? Et comment ces rites de commencement peuvent-ils à leur tour être éclairés par les changements dont nous sommes les témoins chaque jour? Pour réfléchir à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un philosophe, linguiste, poète, psychanalyste existentiel et professeur des universités dont l'œuvre concerne l'éthique, la pensée juive, la critique sociale et la théorie du discours. Georges Elias Sarfati, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Obaknin.
Le nouvel an hébraïque est l'un des quatre nouvels ans que compte la tradition juive. Quelle est la spécificité de ce nouvel an que nous fêterons la semaine prochaine et pourquoi est-il important d'en connaître la spécificité, Georges Elias Sarfati?
Eh bien, le traité Rosh Hashanah, il faut le rappeler, nous enseigne qu'il y a en fait quatre débuts d'année. Le premier Nissan, qui est le nouvel an des rois, au jour à partir duquel on calculait le nombre des années du règne des rois. Le premier Elul, qui est le jour de la perception de la dîme sur le bétail. Le 15 Shvat, selon Hillel l'Ancien, qui est le nouvel an des arbres. Et bien sûr, le premier Tishri, qui a finalement été adopté comme véritable premier jour de l'année, car il est lié au calcul du jubilé, mais aussi à celui des années shabbatiques. D'autre part, ce moment correspondait, il faut le rappeler, c'est très important, à la libération des esclaves hébreux. Alors, pourquoi est-ce que les sages ont retenu le premier Tishri? D'abord parce que Rosh Hashanah est encore identifié à la fête du souvenir de la création, mais aussi c'est le jour du jugement. Le même traité Rosh Hashanah enseigne que ce jour-là, toute l'humanité défile devant Dieu comme un troupeau de moutons. Ça, c'est l'expression talmudique, mais ceci dit sans aucune connotation péjorative. Il est donc important de souligner que si c'est une célébration du calendrier hébraïque, Rosh Hashanah est aussi une célébration qui concerne toute l'humanité. C'est-à-dire que toute l'humanité est appelée à se souvenir de la création et toute l'humanité est appelée en jugement devant le Créateur. Le Rav Stenzaltz, qui a disparu récemment et dont je salue la mémoire, a aussi expliqué pourquoi Rosh Hashanah est également appelé Reshit Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année, comme vous l'avez dit en préambule. C'est parce que ce jour-là, dit le Rav Stenzaltz, joue vis-à-vis de l'année le même rôle que la tête vis-à-vis du corps, et il ajoute « le cerveau est l'organe qui permet à l'homme de percevoir sa propre existence. Chaque être humain possède une sorte d'instinct ontologique lui indiquant qu'il existe. » En somme, ce jour de tête peut comporter l'intelligence de tous les autres jours de l'année, parce qu'il ouvre une période de réflexion aussi bien que de réflexivité, c'est-à-dire qu'en fait, l'être humain se dispose à réfléchir à ses actes et il entre en lui-même avec la conscience de la valeur de ce moment. En particulier, le thème de la création à Rosh Hashanah s'entend ici en deux sens que je voudrais préciser. D'abord, la création du monde et l'interprétation kabbalistique du Maaseh Bereshit, c'est-à-dire de l'œuvre de la création, expose en détail l'implication des attributs divins dans le surgissement du monde. Ensuite, la création de soi, de notre monde personnel. La relation entre création et créativité est ici indissociable d'une philosophie du temps, de la temporalité, qui intéresse aussi bien le sentiment cosmique qui nous ouvre à la grandeur de la création qu'à la prise de parole en première personne. Mais je voudrais mieux cerner cette notion de temporalité. Je rappelle ici que le linguiste Émile Benveniste, qui était initialement destiné à la vocation rabbinique, sans doute le savez-vous, a écrit dans un texte de 65 qu'il faut différencier différents aspects de la temporalité. Il distingue entre le temps physique, qui est le temps du cosmos, le temps chronique, qui est le temps des événements, qui a son corrélat dans la vie psychique et qui se traduit par le temps mesuré des calendriers, et enfin le temps linguistique, qui est le temps spécifique de la prise de parole. Alors on voit bien que ces trois strates temporelles dans le vécu humain sont en fait en permanente interférence, puisqu'à tout le moins elles se supposent l'une l'autre. Autant les deux premières relèvent du déterminisme, cosmique dans le premier cas, social et calendaire dans le deuxième cas, autant le temps linguistique, qui est le temps de l'énonciation, Benveniste y insiste toujours, est la part spécifique de l'homme, c'est-à-dire qu'il est aux prises avec les règles mais aussi les possibilités du langage. Sa créativité est à la fête le soir du cédeur. Le temps de l'énonciation est celui de l'ici et maintenant, par lequel le sujet se réapproprie par la parole et pour son propre compte la langue qui est en fait la langue de tout le monde. Rosh Hashanah est donc la fête de la créativité, l'émergence de quelque chose d'absolument nouveau, comme vous l'avez souligné. Mais en effet, pour que le nouveau soit possible, pour que du neuf surgisse en fait, il faut compter avec la topologie des mentalités, avec ce que leur contenu autorise. Alors selon Gaston Boutoul, les membres d'une même société partagent la même mentalité et la vie en société est, selon son expression, une hallucination partagée. Alors de quoi est faite une mentalité? Selon Boutoul, une mentalité comporte une morale, une technologie, une cosmologie, mais il suffit que l'un des trois constituants de ces trois matrices change pour que l'ensemble en soit systématiquement modifié. Et cette architectonique est en fait à la racine de toutes les combinatoires, aussi bien artistiques, scientifiques qu'axiologiques, c'est-à-dire morales.
Georges Elias Sarfati, votre travail de philosophe, d'analyste des discours et de psychanalyste existentiel vous a particulièrement conduit à réfléchir à la question du sens de la vie pour chaque être humain, du sens des gestes et des symboles dont le discours en est l'une des manifestations majeures. Et sans doute contribue à l'architectonique que vous venez d'évoquer. Quel sens donnez-vous à cette tradition qui consiste, le soir de Rosh Hashanah, pour se souhaiter collectivement une bonne année et commencer à s'y inscrire, à partager un repas pendant lequel, dans un ordre précis, un seder en hébreu, on déguste des aliments dont les noms sont propices à des jeux de langage? Quelle symbolique est à l'œuvre et quel rôle particulier joue le langage ici dans cet accompagnement de la nourriture? On pense bien sûr au verset du Deutéronome, « Kilo al alechem levado yichye Adam », ce n'est pas seulement sur le pain que l'homme vit, et peut-être que l'épisode du non-sacrifice d'Isaac, « Yitzhak » en hébreu signifie « il rira », très présent en filigrane pendant la fête de Rosh Hashanah, signifierait le non-sacrifice du jeu, « misrak » en hébreu, et du rire. Le « tu ne tueras pas » serait ainsi compris ici comme « tu ne tueras pas le jeu » et le rire, Georges Elias Sarfati.
Comme vous le savez, pour la pensée hébraïque, l'être humain n'appartient pas de façon exclusive au règne de la nature, et c'est par le souffle de vie, le Nefesh HaChaim, qu'il s'en différencie, puisque dès son insufflation, il accède au langage, il est un parlant, un médaber, selon la Targum Onkelos, qui est la traduction araméenne de la Torah. Alors oui, l'être humain est en jeu, aux prises d'emblée avec sa condition de parlant, qui lui permettent de nommer les choses, de se désigner lui-même et de caractériser les situations auxquelles il participe. Et par la force des choses, toutes les situations humaines sont en réalité des situations existentielles. C'est précisément le sens primordial de Rosh Hashanah, Reshit Hashanah, la tête de l'année, puisque par la dynamique matérielle du langage, il confère des contours aux choses du monde. Il les catégorise, du fait même qu'il peut simultanément se mettre à distance et les mettre à distance. C'est cela qui se joue dans le rituel de Rosh Hashanah. Chaque élément, chaque aliment du seder possède par lui-même une consistance matérielle, mais en même temps, une épaisseur symbolique vis-à-vis de laquelle l'être humain a la possibilité de jouer. Si j'ose dire, chaque élément, chaque aliment du seder compote une saveur, une signification, dont la compréhension est en fait l'une des finalités du seder. Je m'instruis du sens, le mot hébreu c'est « ta'am », qui veut dire aussi « saveur », de ce que je consomme à mesure que j'en goûte la saveur. La créativité première de Rosh Hashanah, pour tout dire, c'est sa polysémie décisive et en fait sa polysémie de principe. Le seder, par principe, fixe un ordre, définit des étapes, des agencements, qui sont ceux des étapes de la remémoration qui encouragent et autorisent la fantaisie. Si, par exemple, quelqu'un mange une banane et me souhaite bananer, et que moi je mange une orange, je lui répondrai « Merci, à toi aussi, et surtout, orange-toi pour qu'elle te soit aussi douce que la mienne. » Comme on le comprend, chaque élément, chaque aliment du seder incarne un aspect de la douceur que l'on se souhaite mutuellement. Par ces glissements de langage, la remémoration, qui a de fait un caractère protocolaire, devient la commémoration devient remémoration personnelle, reviviscence, puisque Dieu est le premier à avoir joué avec les lettres pour créer le monde, comme on le sait. C'est en consommant les aliments du Seder, préambule au vrai repas, que le jeu de mots fuse, parce que ce sont les mots, si j'ose dire, qui sont les vrais amuse-gueules dans cette histoire. Et le véritable motif humoristique de cette soirée, dont le déroulement suppose l'affection partagée des convives, mais aussi leur créativité, généralement de bon aloi. L'humour règne en maître, comme on le sait. Il s'élève donc au-dessus de l'ordre, par ailleurs très codifié du rituel, c'est-à-dire de l'ordre du discours. L'humour est l'un des signes de la transcendance humaine. Il est aussi l'esquisse de la poétique personnelle du sujet. Et ça, j'y insiste beaucoup. C'est pour ça, il me semble que Rosh Hashanah représente la célébration de ce que j'appellerais la dialectique du déterminisme et de la transcendance. Cette dialectique se marque avant tout dans les usages du langage, avec cette double aptitude du sujet parlant à se conformer à un ordre signifiant qui lui est imposé, mais tout en le subvertissant par l'humour. Alors évidemment, il y a des règles, mais l'humour, précisément, les transgresse jusqu'à un certain point. C'est par cette subversion que je qualifierais de responsable que se joue la double appartenance de l'être humain à l'ordre de sa culture et à celle plus singulière de son rapport original au langage du groupe. On peut alors dire qu'en mangeant son pain de la sorte, l'homme atteste en effet qu'il ne vit pas que de pain, que nous dit la Bible. On pourrait même dire qu'ici, c'est sa dignité de penser et même la bouche pleine.
Et dans cette présentation où on sent cette créativité humoristique et cet humour créatif, on a l'impression d'assister dans ce rituel à une opposition, liberté du jeu d'un côté et ordre précis de l'autre, une invitation peut-être à penser la liberté à partir de la contrainte, Georges Elias Sarfati.
En effet, tout est là, liberté et loi. Alors oui, je parlais de dialectique tout à l'heure, mais c'est peut-être le moment d'en expliciter un peu les enjeux, si vous voulez bien. On pourrait, selon une formule de Sartre, soutenir que l'être humain est d'emblée condamné à être libre. Mais pour ma part, je nuancerai ici en disant que l'ordre de Rosh Hashanah est une expression de l'hétéronomie de la loi, c'est-à-dire de son extériorité à l'humanité. Par conséquent, c'est en regard de cette transcendance, me semble-t-il, que l'être humain est incité à innover, car la création est véritablement une invention. C'est dans ce rituel très pur, très stylisé et très chargé à la fois, que l'être humain va témoigner de ce qu'il a créé pour participer de la création, justement en donnant libre cours à sa créativité. Donc, pour se résumer, l'être humain est condamné, oui, mais il est aussi incité. C'est par cette position d'ambivalence que l'être humain s'affirme encore comme sujet, avec la complicité d'être du sujet. Puisqu'il participe à la fois de l'ordre de la causalité régulière, des lois de la création et des règles du langage, mais aussi de l'ordre de la raison et de son bon plaisir. On pourrait dire que l'être humain est joué par ses déterminismes et ses conditionnements, mais que dans le même temps, il en joue et se joue d'eux simultanément. Finalement, il s'institue homme dans ce double jeu de dépendance, pourrait-on dire sujet d'une suggestion, à l'ordre du discours et de la loi, de liberté d'émancipation en tant que sujet souverain, ce qui lui permet d'échapper précisément à l'assujettissement par un élan de subjectivation.
Et alors, en vous écoutant, Georges Elias Sarfati parler de ce céder, de cette dialectique de l'ordre de la liberté, j'ai pensé à l'ouvrage de Michel Foucault, L'ordre du discours. Peut-on mettre en relation le céder de Rosh Hashanah et les réflexions de Foucault à un auteur dont je sais que vous êtes particulièrement proche?
Alors, cette notion d'ordre du discours est en effet fondamentale. Elle est empruntée aussi bien à la sémiotique de Peirce qu'à la théorie des actes de parole de Austin, Foucault ayant capté ce qu'il y avait de novateur dans la conception pragmatique du langage. À cet égard, il me semble que la réflexion de Foucault, qui m'est précieuse, me l'est autant que de celle d'Althusser qui a défini la formule de toute idéologie. Mais je dois dire que ces deux penseurs qui passent eux-mêmes pour avoir inspiré les théoriciens du discours sont, à mon avis, tous les deux redevables à Jean-Pierre Faye qui les a précédés et dont l'intérêt égal pour les mécanismes du langage totalitaire et de la déraison antisémite ne cesse de questionner, à mon avis, la culture contemporaine mais aussi ses enjeux. Thank you.
Georges Elias Sarfati, un chant composé par Shlomo Carlebach, une figure majeure du XXe siècle, un chant très joliment interprété par l'ensemble Yama, avec justement une belle créativité et inventivité dans l'usage du chauffard, cette corne de bélier avec laquelle on produit à l'occasion de Rosh Hashanah trois sortes de sons différents, long, brisé et staccato, tekiya, shevarim et teroua en hébreu. Trois sons et trois mots que les commentaires traduisent ainsi. Son affirmé, bien implanté dans le sol, comme un pieu fiché en terre, qui tient très solidement, c'est la tequilla. Chevarim est la brisure. Le son se casse, se coupe, se morcelle, se brise, comme un pleur et possiblement un rire aussi. Un corps secoué par l'émotion, mais en même temps sidéré et qui reste sur place. Enfin, teroua, qui est la brisure de la brisure, mise en mouvement des choses et des êtres, comme le berger, roé, c'est la même racine, qui va de pâturage en pâturage, non pas la solidité de la maison, mais la fragilité de la tente, qui se plie, se déplie et se replie, le berger sur la route avec ses intempéries et ses difficultés. Comment, Georges Elias Sarfati, interprétez-vous ces différentes sonneries aujourd'hui? Comment éclairent-elles et sont-elles éclairées par notre temps? Georges Elias Sarfati.
Pour moi, Marc-Alain Wachnin, et j'y suis sensible chaque année de façon nouvelle, le chauffard développe une sémiotisation que je qualifierais de tonale et de sonore, des méandres de la psyché humaine, mais aussi de l'intrigue de la vie intérieure, qui est si menacée aujourd'hui par les nouvelles technologies. Puisqu'en fait, les plus grandes factions de l'humanité n'ont accès ni à l'intériorité des livres, ni à la plénitude de la méditation. Et elles se perdent dans de fausses reliances. La vie intérieure de trop nombreuses personnes, à mon avis, se trouve dans la situation du personnage de Peter Kian dans Auto da Fé, le roman d'Elias Canetti, que je crois vous aimez comme moi. Kian est une incarnation de la culture, de l'intériorité, et il est attaqué comme le langage qu'il défend par toutes sortes d'escrocs. Je voudrais aussi expliciter cette remarque en me servant justement de ce que vous avez si précisément dit de la racine sémantique de chacune des trois sonorités du chauffard. C'est par série de 30 et une série de 10 que le chauffard doit retentir au cours des journées de Rosh Hashanah. Or, si on y réfléchit bien, les mouvements de notre âme sont un reflet exact de la diversité de ces inflexions. Brèves, longues, déchirantes et déchirées. C'est d'une certaine manière aussi bien le mouvement de la passion que du projet, le méandre du tourment, comme les rythmes du cheminement de la pensée ou de la créativité que nous évoquions tout à l'heure. Des moments d'ancrage précèdent des instants d'orage, puis de défaite, mais aussi d'effondrement, qui sont suivis de moments de reprise, d'affermissement et de ressaisissement, et ce ressaisissement, c'est celui de nous-mêmes. Cela vaut pour l'effort conscient qui nous porte à donner du sens à notre vie, mais cet effort peut aussi être inconscient, et il l'est la plupart du temps, comme pour les tonalités qui marquent notre rapport au monde et aux autres. Ça peut être apaisé, résolu ou en remaniement.
Alors, si on approfondit un petit peu cette symbolique du chauffard, avant de sonner le chauffard, la personne qui va sonner, justement, prononce une bénédiction qui dit l'obligation, non pas de sonner, mais d'écouter, d'entendre le son du chauffard, littéralement la voix du chauffard. En quoi Rosh Hashanah pourrait-il être considéré comme une école de l'écoute, Georges Elias Sarfati, et à quoi serions-nous particulièrement appelés à écouter aujourd'hui?
Alors là, il y a plusieurs choses. Je dirais que l'entente comme l'attente périodique du chauffard m'évoque au moins deux directions de réflexion. D'abord, la voix de la tradition, qui aujourd'hui nous parvient haché et hachuré, et que nous ne recevons pas toujours avec la même disposition d'accueil intelligente que sa compréhension suppose. Et puis je voudrais ajouter que les trois sonorités du chauffage, du chauffard, intéressant parce que c'est vrai que c'est intense, et ça irradie, témoignent pour moi de trois rapports de nos contemporains à la tradition et à l'autorité de la tradition. Et là ici je fais surtout référence à la connaissance ainsi qu'à la lecture des textes qui est bien trop négligée à mon avis. Stéphane Moses, comme vous le savez, a distingué entre deux modalités du rapport à la tradition. Une qu'il a appelée la modernité normative, selon lui représentée principalement par Emmanuel Levinas au XXe siècle, et bien avant lui par Franz Rosenzweig et Hermann Cohen. Et puis d'un autre côté, ce qu'il appelle la modernité critique, incarnée par Kafka, Benjamin, mais aussi Hannah Arendt, qui, en reprenant un mot de Tocqueville, a écrit que le fil de la tradition est rompu. Eh bien, je dirais que pour moi, la tonalité tequila, c'est la possibilité en fait d'un rapport solide qui n'est pas distendu avec la tradition, la modernité normative, qui est marquée par une certaine confiance en celle-ci, tandis que la tonalité schwarim, c'est au contraire la modernité critique, la brisure, le lien cassé, mais cependant un lien qui reste nostalgique et dont témoignent toutes les personnes qui sont sur le point de s'en éloigner en sachant très bien qu'ils peuvent toujours la rejoindre, fût-ce par ce qu'autour d'eux, certains encore perçoivent la tequila. Et puis, il y a une troisième modalité. Et là, je réfléchis à mon compte, qui dessine une tendance très forte aujourd'hui, mais que Moses n'a pas envisagée et que je qualifierais pour ma part de modernité acéphale, c'est-à-dire privée de tête. Je définis cette modernité acéphale précisément comme le risque encouru et couru par de nombreuses personnes qui consiste à vivre selon la tonalité de la terroi, c'est-à-dire de la brisure de la brisure. Et évidemment, la modernité acéphale, qui n'a pas de tête, ne peut pas connaître Rosh Hashanah. C'est le point d'éloignement maximal en un sens, mais en même temps, c'est un point d'ambivalence qui n'est pas encore celui de la rupture, mais celui de l'informe déjà, et qui peut ouvrir sur un nouvel appel, sur une renaissance. Et comme on le sait, le renouveau et la renaissance, et le peuple juif est bien placé pour le savoir, peuvent procéder du risque d'extinction. Mais cela vaut aussi, me semble-t-il, pour un psychisme traumatisé, qui a vécu le processus de renouvellement qui suppose la destruction et qui connaît la reconstruction après un moment de dispersion de tous les ancrages. Je voudrais ajouter que c'est cela que Viktor Frankl a montré avec les moyens de la logothérapie, c'est-à-dire de la thérapie centrée sur le sens. Le tikkun, la réparation, est toujours possible. Et ces trois modalités de la modernité, normative, critique, acéphale, déterminent aussi pratiquement, dans la vie quotidienne, j'ai envie de dire, trois modes relationnels et trois formes de rapport actif au langage. Un rapport ancré ou précaire ou bien vacillant. Je voudrais aussi ajouter que la langue, pour moi, en tant que poète, c'est l'écrin de l'âme. Or, elle est brisée de toutes parts, mais en la défendant, nous prenons aussi le parti d'un sujet créatif et créateur. Il y a encore une chose, l'horizon de Rosh Hashanah nous introduit à un temps de renouvellement, comme vous avez beaucoup insisté. C'est le renouvellement de l'humanité, la possibilité d'un endiguement progressif des formes de violence collective et organisée. Cette année, ma famille, mais aussi une partie du monde scientifique, et ça je voudrais le souligner, célèbre le 40e anniversaire de la disparition de Gaston Boutoul, qui était mon grand-oncle, mais qui était surtout un grand pionnier de l'écologie politique. C'était le fondateur d'une sociologie qualitative du changement, qui a culminé avec la polémologie, la sociologie des guerres, et qui a pensé ce qu'on pourrait appeler les conditions d'émergence d'une humanité pacifiée par l'intelligence, la coopération, et puis aussi la maîtrise de ces deux fléaux qui n'a jamais cessé de dénoncer et qui sont la surpopulation et la guerre. Ce savant était un savant d'envergure pluridisciplinaire et aussi un modèle pour notre temps. Il donne à penser, il inspire des solutions créatives qui en appellent à la mobilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective.
Alors l'intelligence collective est quelque chose d'important, je crois, pour vous aussi. Vous avez créé, il y a quelques années, un institut de recherche qui porte le sigle étrange de R2DIP. Et quand on le prononce, on entend, ça se lit R2DIP. Je pense qu'à la fois cet institut et son nom ne sont pas étrangers aux préoccupations que nous traitons aujourd'hui, Georges Elias Sarfati.
Alors vous voyez encore, il y a cet enjeu d'humour crypté, sans penser en propre à des enjeux existentiaux à ce moment-là ou à des enjeux métaphysiques du calendrier hébraïque. J'avais en tête, c'est le cas de le dire, le projet de l'élaboration d'une posture critique collective capable de penser à nouveau frais justement le problème de la confrontation entre deux régimes de discours, c'est-à-dire les différents régimes du discours social et politique, la langue de bois, qui est celle de la rigueur idéologique, ou bien la langue de coton, qui est celle de l'anesthésie sans reste de toute créativité, de tout contre-discours, et celui aux prises avec le précédent, de la parole analytique, capable de valoriser la poétique des sujets que nous sommes. Le fait est que je pense que nous vivons une époque où le processus de désymbolisation, c'est-à-dire de destruction de la culture, a atteint sans doute un point de non-retour dans une certaine ère de civilisation. Pourtant, comme on dit en hébreu, « anachnu po », ce qui veut dire « nous sommes ici », comme dit le chant des premiers sionistes. Ce qui indique bien qu'il existe deux temporalités et que si le judaïsme est déjà dans l'éternité, comme le pensait Rosenzweig, il nous appartient, par responsabilité, de ne pas abandonner nos frères humains dans la contingence du relativisme, du nihilisme, mais aussi de la déconstruction et de la déconstruction de la déconstruction. Cet Oedipe que nous entendons en filigrane dans le sigle R d'Oedipe, qui désigne le réseau d'études et de recherches sur les discours institutionnels et politiques, est en effet mise à mal dans cette ère de civilisation. Et comme vous le savez, aussi bien Alexander Mistcherlich que Jacques Lacan ou Charles Mellman ont tous trois, depuis un bon demi-siècle, diagnostiqué les étapes de la mise en crise de la fonction paternelle. Or, nous savons que cette contestation dissimule un fantasme parricide, comme l'ont montré aussi bien Bella Grumberger que son épouse Janine Chasgay-Smirgel. L'idéologie postmoderne, en plus, véhicule fondamentalement l'obsession du patriarcat. On voit sur tous les murs en ce moment « patriarcat caca », en un seul mot, au risque de confondre le père avec le maître, et l'autorité avec l'autoritarisme et le pouvoir. Il me semble que l'analyse critique des discours, en tout cas telle que je la préconise, consiste à identifier les différents états d'un discours pour mettre en évidence les mécanismes sémantiques de ce qu'on appelle la doxa, l'opinion, et de l'idéologie. L'opinion commune en particulier, dont Platon disait qu'elle mène le monde. Et ce problème est vraiment le problème le plus ancien qui se pose à la philosophie et à la conscience lucide. Alors, c'est une version sécularisée de l'œuvre de Rosh Hashanah, d'une certaine manière, ce R d'Oedipe. C'est une petite machine critique qui retentit comme le chauffard, j'ai envie de dire, au milieu des forteresses du sens commun.
Je pensais, là encore, en écoutant ce que vous disiez, à cette phrase de Michel Foucault qui dit « Toute culture a besoin de définir ce qui la limite ». Qu'est-ce que Rosh Hashanah apporte dans ce savoir des limites? Et j'ai l'impression que le rite du chauffard et le mythe fondateur qui le porte, à savoir le non-sacrifice d'Isaac, propose des pistes de réflexion. Georges Ilias Sarfati.
Alors oui, les limites dont parle Michel Foucault sont des limites de fait nécessaires, qui bornent ou qui réduisent, dans le meilleur des cas, le risque du passage à l'acte. Et des limites qui sont aussi celles que nous assignent non pas seulement les règles du discours en tant que telles, mais les impératifs éthiques du narratif biblique. Et c'est là que peut-être nous autres juifs français avons notre mot à dire. Cette idée de narratif a été détournée de son sens par la déconstruction, mais aussi par tous ses avatars, notamment les nouvelles formes de la judéophobie qui fleurissent ici et là, depuis l'idée saugrenue selon laquelle le peuple juif a été inventé, et que toutes les identités sont des constructions de discours. Mais la vérité du narratif juif tient à son enracinement matériel, à l'anthropologie libératrice qu'il met en œuvre. Tout le calendrier hébraïque définit un paradigme de la libération. Il ne faut pas l'oublier depuis l'émancipation du sacrifice humain, que vous avez fortement rappelé, la Kedat Yitzhak, jusqu'à la libération d'Égypte et jusqu'à la libération de l'indépendance d'Israël au XXe siècle. Ou bien, à l'échelle personnelle et subjective, et ça c'est un des grands enjeux des Yamim Noraim, des 10 jours qui nous séparent de Kippour, la libération rendue possible par le phénomène de la teshuva régulière, c'est-à-dire du retour au soi spirituel, de l'examen de conscience. En somme, le narratif hébraïque s'enracine dans un mode de vie, mais ce n'est pas un simple artefact de langage.
Merci Georges Ilias Sarfati pour cette réflexion et vos éclairages profonds sur Rosh Hashanah, dont je rappelle la date du 18 septembre au soir jusqu'au 20 septembre au soir prochain. Bien sûr, il reste à explorer ce rituel qui est plus une coutume populaire et qui consiste à jeter des miettes de pain aux poissons le premier jour de Rosh Hashanah ou le deuxième si le premier jour tombe un Shabbat. Que signifie cette coutume dans l'économie générale de cette date de création du monde et de tout ce que l'on vient de dire sur l'écoute, la parole, le pouvoir, la limite, le changement, la créativité? Je vous propose de garder cette question pour la semaine prochaine, où j'aurai le plaisir de poursuivre cette conversation avec vous, si vous le voulez bien, autour de la fête de Kippour et de sa signification dans ce monde d'après. Je tiens aussi à rappeler le titre de vos derniers ouvrages. Tout d'abord, dans le domaine de l'analyse existentielle et logothérapie, vous avez fait paraître un livre essentiel de Viktor Frankl, « Le thérapeute et le soin de l'âme » chez Luno en 2019, dont vous avez fait la traduction et la présentation. Dans le domaine de la pensée juive et des études bibliques, vous nous offrez l'ouvrage important de Umberto Casuto qui s'appelle « L'hypothèse documentaire et la composition du Pentateuque » chez Hermann, paru aussi en 2019. Et dans ces journées qui ont pour vous apparemment plus de 24 heures, vous avez écrit un très beau recueil de poésie intitulé « Introduction au mal de Moebius » que l'on trouvera aux éditions Tima, paru en 2020. Merci encore Georges Elias Sarfati.
Merci à vous Marc-Alain Wachnin de m'avoir invité.
C'était un plaisir et c'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la technique aujourd'hui, Valérie Lavalard, à la réalisation, Alexandra Malka. Toute l'équipe de Talmudique se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année nouvelle, une bonne fête de commencement 5781. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.